Saviez-vous que l'autre histoire de Genève, une chronique insolite présentée par Carlo Ruexeger.
Saviez-vous que le Geneva Pal Expo, avec son anglicisme bien de nos jours, eut son prédécesseur qui se trouvait situé à l'extrémité sud de Plainpalais, que l'on nommait le Palais des Expositions, construit en 1926 par Jean-Louis Kella et Henri Gampard. Auparavant, le Salon international de l'automobile fut installé dès 1905 au Palais du Conseil général, puis en 1923 au Palais électoral. Bref, en 1924, le salon emménagera dans une halle provisoire de 8000 m² sur la plaine avant d'intégrer le Palais des Expositions qui accueillait en plus du Salon de l'Auto ce que l'on appela longtemps les arts ménagers, dont la dénomination se transforma en foire de Genève, grâce à une patronne, grande philanthrope et mécène de cette grande manifestation. Donc, le Palais des Expositions d'alors pouvait recevoir des spectacles, des concours hippiques internationaux et d'autres expositions. Attenant au Palais des Expositions, une salle de sport polyvalente qui permettait aux amateurs de basketball, de rink hockey, de suivre les matchs des Harlem Globetrotters, mais aussi les clubs locaux tels que l'UGS, le Stade français. En hiver, une patinoire artificielle y était installée, qui plus tard déménagea dans l'actuelle patinoire des Vernets flanquée de sa piscine. Mais la plus importante manifestation restait le Salon de l'Auto. Pendant ces jours, le quartier dans son entier vibrait, grouillait, bref, c'était l'ébullition. Les visiteurs avaient tout loisir, après les belles carrosseries, de se restaurer dans les bistrots et brasseries alentour, dans un joyeux charivari où les visiteurs, les mains pleines de cornets, contenaient les prospectus de leurs modèles favoris. Nos amis suisse-allemands pouvaient même aller au Paquis pour découvrir d'autres carrosseries. Il n'était pas vraiment nécessaire pour les badauds d'entrer et de payer le salon. Une partie du boulevard Karl Vogt était réservée aux exposants où les voitures rutilantes attendaient pour un éventuel essai. Il suffisait de longer le trottoir pour découvrir ces mécaniques synonymes à l'époque d'indépendance. Les gamins du quartier astucieux trouvaient tous les moyens pour rentrer à l'œil. Un des sports favoris des gosses était la chasse aux insignes. Comprenez le symbole d'une marque automobile que les grands épinglaient au revers de leur veston. Les gosses étaient facilement reconnaissables aux rouleaux de mousse qu'ils trimbalaient, où les collectionneurs épinglaient leurs insignes, faisaient le tour des firmes afin de commander l'insigne tant recherché. Il y avait carrément une bourse à l'intérieur qui s'était développée. Les échanges s'effectuaient. Bref, c'était du sport. Ensuite vint la mode des autocollants, des porte-clés, etc. Le déménagement du palais au Grand Saconnet déclencha la mauvaise humeur de tous les commerçants avoisinants, ainsi que la population. Un morceau de vie de la cité et de Plainpalais disparaissait. Une autre page se tournait. Mais c'est une autre histoire. Saviez-vous que l'origine de la numérotation des maisons de Genève date de 1782 ? Et c'est sous les auspices du Conseil qui accepta le désir du marquis de Joncourt que les maisons de la ville furent numérotées pour faciliter la tâche de la milice. Plus tard, les postiers pourront délivrer ce que l'on trouve de nos jours dans nos boîtes aux lettres. Pour revenir aux origines de cette numérotation, cela ne fut pas chose aisée. La population, taquine, frondeuse, était opposée à toute autorité et ressentait comme une provocation ces nouveaux édits. Si bien que les débuts de cette numérotation furent fastidieux. Tous les moyens étaient utilisés pour saboter le numérotage. Effacement des numéros, mélange de la numérotation, etc. Ce qui provoqua une certaine anarchie. Quand un gendarme ou un autre huissier se rendait à une adresse, non seulement il ne la trouvait pas, mais parfois ses opposants plutôt rigolards interchangeaient aussi les plaques de certaines rues. Il s'ensuivit que tous les jours ou presque, les fonctionnaires chargés de cette tâche repeignaient les numéros effacés et fantaisistes et remettaient les plaques des rues aux bons endroits. ce qui n'empêchait pas que ces pratiques se répétaient et ainsi de suite. Repeindre, effacer, repeindre, se rechanger, etc., etc. La population vivait tout cela avec bonne humeur et des petites comptines ou pamphlets furent composés. Le Grand Conseil, furieux du ridicule de la situation, y virent une menace de révolte et énonça de peines sévères contre ces trublions. Bref, le mouvement s'essouffla, mais en 1860, on reconnut que le système de 1782 était vicieux et égarait plus qu'il ne dirigeait. Une nouvelle numérotation fut appliquée. Bref, tout ça pour ça. Mais c'est une autre histoire. Saviez-vous que Genève, au XVIe siècle, vécut des événements météorologiques qui subsistent dans des rapports de témoins conservés dans nos archives ? Il faut prendre en compte qu'à cette époque, la population en général avait tendance à interpréter certains phénomènes venus du ciel sous un angle souvent empreint de superstition et autres signes et messages célestes. Le ciel n'est-il pas l'univers des dieux ? La puissance de ces manifestations accentuait encore le mystère. Daté de mai 1576, un procès-verbal décrit l'apparition d'une comète observée par de nombreux citoyens, décrit parfois comme une boule de feu traînant des cheveux écarlates. La signification en était souvent interprétée comme un mauvais présage, d'autres comme une lumière céleste bienveillante. En 1618, ils en virent une autre, décrite comme une effroyable et épouvantable comète aux formes d'un balai en feu. Sorcellerie, vision paranormale. En septembre 1580, le ciel est décrit d'un rouge crépusculaire qui fait croire que le ciel brûle. Un autre citoyen utilise une autre métaphore que je cite. Il y dit que c'était comme un combat entre le soleil et la lune se battant avec des armes, avec lances et chevaux, et que le soleil fut tout en sang. Et que penser de ces pluies de sang signalées à plusieurs reprises, comme le 6 juin 1598, il pleut du sang au Mont Jura et sur Collonges. Un certain François Dufour en avait même récupéré dans un seau pour l'apporter et le faire constater au sieur Simon Goulard. En 1617, des inondations se transformèrent en déluge de sang. Le 25 février 1598 fut observée une grande éclipse de soleil à 10h du matin et qui dura près d'une demi-heure. Le lundi 27, un furieux orage de grêle détruisit nombre de vitrages et cultures. Le ciel gronda et se déchira d'éclairs qui fait que la nuit sembla d'être de jour. On constate aussi en 1598 et en 1601 des tremblements de terre, des comètes, des éclipses se succédaient à intervalles réguliers. La foudre tombe sur la maison de ville et la cathédrale subira quelques dégâts. L'on dit qu'en 1600, le soleil apparut tout pâle et mortuaire tout au long de l'année pour reprendre son aspect d'origine l'année suivante. Les anciens gardèrent en mémoire les catastrophes des années 1570-1574. Pluie et neige abondantes, inondations désastreuses, arbres déracinés, granges et étables emportés, ponts détruits, récoltes perdues. Suivi d'un grand froid, le lac gèle, les vignes et les noyers gèlent, les moulins sont en panne, suivra la disette et le prix de la farine inabordable. Pour finir, la peste et l'afflux de réfugiés. Madame Météo est pourtant bien jolie, mais c'est une autre histoire.
Bientôt, d'autres histoires.